Alors moi je m'appelle donc Naïma Mfadel, je suis mariée, j'ai 4 enfants qui sont déjà bien grands, avec une petite dernière qui est encore étudiante. Je suis pas née à Dreux, je suis née au Maroc. Je suis arrivée à l'âge de 8 ans et demi, mais j'ai toujours vécu à Dreux. J'ai habité la Croix-Ténac, donc j'étais à Saint-Exupéry en primaire. Non, au début j'étais à Saint-Ève en fait, Saint-Ève, la Gambetta. Ensuite on est parti à Saint-Exupéry pour finir la scolarité en primaire. Ensuite, j'étais au collège Pierre et Marie Curie, et ensuite à Rotrou. Donc moi, je suis chargée de mission équité urbaine. Auparavant, j'étais conseillère technique auprès de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Et en fait, j'ai la même mission ici, c'est-à-dire je suis en charge des quartiers dits populaires dans le cadre de la politique de la ville. Alors c'est un peu, peut-être que vous n'allez pas trop bien comprendre, mais disons que je suis plus attachée sur les villes de l'Eure-et-Loire, qui ont des quartiers en difficulté, avec des populations qui ont plus de difficultés que d'autres. Et donc j'interviens autour de l'action sociale, de la parentalité, de l'échec scolaire, de l'insertion sociale et professionnelle, pour lever les freins et pour améliorer les conditions de ces personnes.
En quoi consiste votre mission au conseil départemental? Quelles sont vos principales tâches?
Donc je suis en transversalité avec l'ensemble des services du conseil départemental. Je suis en charge des questions sociales, mais qui sont plus sur les villes qui ont des quartiers dits en QPV, c'est-à-dire les quartiers prioritaires, qui rencontrent beaucoup plus de difficultés que sur d'autres quartiers des villes.
Depuis combien de temps travaillez-vous pour le conseil général?
Alors, conseil général, je travaille depuis peu, en fait, depuis le mois de janvier. Et auparavant, j'étais pendant 5 ans chez Valérie Pécresse, où j'étais conseillère technique dans son cabinet, en charge toujours des mêmes questions. Et avant d'arriver chez Valérie Pécresse, j'étais pendant 10 ans déléguée du préfet des Yvelines, où j'avais en charge la ville de Mantes-la-Jolie, où je m'occupais de la rénovation urbaine et de l'action sociale.
Que préférez-vous le plus et le moins dans votre fonction?
Bah écoutez, je vais vous faire un aveu, j'aime tout en fait, parce que ça fait près de plus de 30 ans que je travaille sur les questions sociales et sur les quartiers. J'avais commencé à Dreux, ensuite j'ai été à Trappes, donc ensuite sur la région Île-de-France et aujourd'hui sur l'Eure-et-Loire. Ça me permet de me rapprocher aussi de mon domicile. Mais c'est vrai que c'est toutes les questions autour de la parentalité, de la solidarité, de l'action sociale, de l'insertion, comment améliorer la vie des personnes qui ont des difficultés, comment tendre la main pour que les personnes qui sont à un moment en difficulté puissent remettre les pieds à l'étrier, comment aussi améliorer et lutter contre l'échec scolaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient très, très à cœur. Et j'ai pu, sur Mantes-la-Jolie notamment, permettre à des jeunes du Val-Fouré de pouvoir accéder au lycée militaire de Saint-Cyr. Alors, c'est un lycée d'excellence qui est dans le 78. Et ça permet, en fait, à des jeunes de suivre un cursus dans un lycée militaire. Après, ils peuvent continuer pour être militaires s'ils le veulent. Ce n'est pas forcé. Hein. Mais en tout cas, ils peuvent suivre dans ce lycée-là. Alors, bien sûr, c'est un cadre avec l'uniforme, avec l'internat. Ça peut être une difficulté, l'internat. Et puis, ils suivent vraiment... alors, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est aussi beaucoup axé sur la discipline. Mais voilà, ça s'est très bien passé et ça continue. Ce qui est formidable dans ce lycée, c'est quand vous faites des études dans ce lycée, c'est que c'est un lycée d'excellence. Donc du coup, les portes vous sont ouvertes pour faire des études supérieures. Et vous pouvez aussi continuer dans ce lycée pour faire une prépa, voilà, en gros. Et j'espère que tout à l'heure, je pourrai vous dire que rien n'est impossible. Il suffit de se donner les moyens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est à la 6e promotion, avec des belles réussites, à ce point que des enfants du Val-Fouré sont devenus majeurs de leur promotion. Donc c'était vraiment Donc rien n'est impossible, il faut juste de la volonté.
Combien avez-vous fait d'années d'études?
En tout, j'ai dû faire 6 ans, 6 années d'études. Non, c'est pas trop, parce que je vais vous expliquer, vous n'êtes pas obligé de faire des études d'un seul coup. Vous pouvez commencer par, je sais pas, moi ça dépend, hein. Un petit bout, après vous pouvez vous arrêter un peu parce que vous travaillez, parce que voilà, et reprendre après. C'est ça qui est formidable dans notre pays, c'est que les choses ne s'arrêtent pas. Moi, à un moment, j'ai eu la maîtrise, je me suis arrêtée, j'ai eu mes enfants, et après, j'ai repris. J'ai jamais... au contraire. Et puis, c'est sympa de faire des études. Vous êtes avec des jeunes étudiants, vous avez cette vie d'étudiant qui est quand même formidable.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des études de sociologie?
Alors, effectivement, parce que je me suis très vite intéressée, en fait, à tout ce qui était autour... de l'intégration, autour de la cohésion sociale, autour de l'anthropologie. Donc ces questions-là étaient des questions qui étaient importantes très tôt pour moi. Donc j'avais commencé par en faisant des études plutôt autour de tout ce qui était socioculturel. Ensuite, j'étais sur tout ce qui était autour du développement culturel, comment permettre que l'accès à la culture pour tous. Et ensuite, une maîtrise autour de l'éducation. Donc vous voyez, c'est toujours un cheminement. Et après, j'ai fait effectivement une formation sociologique appliquée à l'intervention sociale. Donc on voit bien que c'est toujours transversal de toutes les, de toutes les missions ou tous les questionnements que j'avais.
Quelles sont vos motivations pour avoir choisi de travailler pour les quartiers populaires?
Je crois que vraiment, c'est ce qui m'habite en fait, c'est que vraiment, je veux la réussite des gens et je trouve qu'il n'y a pas de fatalisme en fait. Je trouve que c'est pour ça que j'ai eu vraiment des très belles rencontres où, eh bien voilà, on permet à des gens de s'en sortir, on permet à des jeunes de faire des études. Là, je citais tout à l'heure le lycée militaire de Saint-Cyr, je peux vous dire que les jeunes du Val-Fouré, quand on a proposé ça au début, personne n'y croyait. Et quand on a coaché ces jeunes-là, tout simplement pour qu'ils passent le concours, ils ont passé le concours. Hein. On les a coachés en maths, français et culture générale. La première année, bon, sur 15 qui se sont présentés, il y en a eu quand même 5 qui ont été reçus. Et puis d'année en année, c'est des réussites. Aujourd'hui, on en a eu quand même plus de 180 qui sont passés par ce lycée, avec des jeunes qui sont sortis médecins, ingénieurs, etc. Ça, vous vous dites, mais voilà. Parce qu'il faut juste que je vous dise pour la petite anecdote, c'est que vous aviez cette possibilité pour les boursiers et les jeunes des quartiers d'aller au lycée militaire de Saint-Cyr, mais personne n'avait eu l'idée, en fait, de proposer ça à ces jeunes-là. Donc le problème, c'est les préjugés aussi qu'on peut avoir. C'est-à-dire que malheureusement, vous aviez aussi... Parce que même les parents nous disaient, c'est pas pour nos enfants. Certains enseignants nous ont dit, on craint que ça soit pas possible pour nos jeunes. Et en fait, quand on a fait la première année, ça s'est bien passé. Et maintenant, c'est tous les collèges jouent le jeu, identifient les jeunes. C'est une association qui les suit et c'est une réussite. Et moi, j'étais contente de les aider dans le cadre des budgets de l'État.
Quel métier avez-vous avant celui-ci?
Alors en fait, les métiers que j'ai faits, j'ai été d'abord à Dreux, j'ai travaillé au Centre culturel du Lièvre d'Or, où j'étais animatrice socioculturelle. Ensuite, j'ai été adjointe au Conservatoire de musique de Dreux. Ensuite, j'ai été coordinatrice des affaires culturelles, chef de projet développement social et urbain sur le quartier des Battes, votre quartier. Et ensuite, je suis partie à Trappes, où j'ai dirigé l'ensemble des centres sociaux de la ville de Trappes. Il y avait 5 centres sociaux. Ensuite, déléguée du préfet des Yvelines. Et puis, j'ai intégré le cabinet de Valérie Pécresse en tant que conseillère technique sur la politique de la ville. Et ensuite, aujourd'hui, chargée de mission équité urbaine. En fait, comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs métiers. Hein. Ce n'est pas toujours les mêmes métiers. Mais la première fois, en fait, c'était par hasard... j'étais étudiante et il y avait le centre culturel où j'y allais parce que je faisais du théâtre. Ma sœur aussi, on faisait des tas d'activités dans le centre culturel du Lièvre d'Or, qui était là où j'habitais. Et en fait, pendant l'été, j'ai fait de l'animation parce qu'à la demande du directeur, parce qu'il cherchait des animateurs. Ensuite, j'ai passé un diplôme d'animation. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, pendant mes études, j'ai continué à faire de l'animation. Donc, ça m'a donné envie d'aller sur tout ce qui était animation socioculturelle. Et voilà, petit à petit. Après, j'ai intégré le conservatoire de musique et de danse. Là, toujours avec cette volonté d'ouverture sur les quartiers, puisqu'on a mis en place des classes de musique dans le primaire. Et puis après, ce qu'on appelait les mardis concerts qu'on faisait normalement au sein du conservatoire de musique, mais on les a fait en sorte qu'il y ait une programmation dans les centres culturels, à l'hôpital de Dreux, etc. Et le bénévolat, j'en ai fait beaucoup, oui. Notamment sur Dreux avec le cercle laïque. Et je continue à en faire. J'ai même moi-même créé une association qui s'appelait la Maison d'Averroès. C'était des cours de langue arabe. Sur Dreux, d'ailleurs, qui a bien fonctionné. Après, j'ai passé le relais. Et justement, le bénévolat, c'est extrêmement important parce que vous savez que vous avez la possibilité d'être en... Alors, vous êtes encore un peu jeune, je pense, hein, mais en service civique. Le service civique, c'est vraiment quelque chose de formidable, d'un engagement citoyen, en plus avec une indemnité. Moi, j'en ai mis en place toujours à Mantes-la-Jolie, j'en ai mis en place une 50aine de services civiques.
De quelle action êtes-vous le plus fière dans les quartiers populaires?
Vraiment, le lycée militaire de Saint-Cyr. Ça, je trouve que c'est formidable. Parce que vraiment, quand on revoit ces jeunes-là qui sont devenus maintenant certains adultes, j'ai vraiment beaucoup de plaisir quand je vais sur Mantes-la-Jolie à les rencontrer. Tout ce qui est aussi autour de l'entrepreneuriat. J'ai aussi beaucoup œuvré sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, vous avez beaucoup de jeunes des quartiers populaires qui ont envie d'entreprendre, de créer leur petite entreprise. Les mamans aussi, sur Mantes-la-Jolie, on en a mis en place. Mais qui parfois, quand on leur parle de business plan, etc., ne comprennent pas trop. Donc c'est comment lever les freins pour que eux et elles, restent sur leur savoir-faire. Les conseils citoyens aussi, les conseils citoyens qui permettent... Alors l'idée c'était quoi? J'avais mis ça en place à Mantes-la-Jolie, j'en ai mis en place aussi sur Dreux. L'idée c'était que par quartier, il puisse y avoir une représentation citoyenne des habitants pour des rencontres, notamment avec le préfet, pour venir dire les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Voilà, et ça c'était très bien parce que ça permet aussi de libérer la parole, de dire les difficultés, etc. Et sur Dreux, j'en ai mis en place aussi. Et ça c'était intéressant aussi parce que ça leur permet d'être associés à toute la politique d'une ville. Les élus ils peuvent être dans leur tour d'ivoire, si je puis dire, mais ils ne savent pas le quotidien que vivent les habitants. Et c'est eux qui ont vraiment le regard le plus près de leurs difficultés. Et demander à un habitant, ben voilà votre quartier, qu'est-ce que vous voyez comme petite intervention, organisation, comme rénovation, comme plantation d'arbres, les bancs, les jeux pour les enfants. C'est quand même eux qui savent mieux que les élus ce qui peut être bien pour eux.
Êtes-vous fière de votre parcours professionnel?
Ben écoutez, je sais pas en fait à répondre à ça. Je sais que moi, je veux rendre ce que j'ai reçu en fait. Je suis fière quand même de le dire. Hein, j'ai reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Ça m'a vraiment fait plaisir. Enfin, c'est une distinction de l'État. Hein. Vous avez la Légion d'honneur, vous avez chevalier de l'Ordre national du mérite, et ça m'a été remis par le ministre de la politique de la ville. Donc ça m'a fait plaisir.
Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré, quelqu'un qui a été votre modèle?
Bah, écoutez, vraiment le modèle que j'ai eu, c'est ma maman. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais c'est une femme d'une grande intelligence qui avait beaucoup de volonté et qui nous a vraiment beaucoup, soutenus. Et elle avait des paroles fortes. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la manière dont on est éduqué, c'est important, le discours qu'on tient. Et elle, on n'a jamais été dans une posture... C'est pour ça que tout à l'heure, quand on m'a posé la question sur la double culture, je vous ai dit que moi, c'est une force. Parce qu'on a eu de la chance d'être élevé dans un climat apaisé. Moi, nos parents parlaient bien sûr l'arabe. On faisait tout ce qui était autour de la culture marocaine, évidemment. Et puis à l'extérieur, on parlait avec nos amis français. Et puis ma maman, le mois du Ramadan, par exemple, tout l'immeuble avait le droit à des gâteaux, à de la soupe marocaine. C'était avec ma sœur, on était vraiment mandatés pour ça. Donc elle savait aussi créer cette espèce d'espace d'altérité. D'interculturel, si on peut dire.
Est-ce que vos origines ont été un frein ou une force pour votre carrière?
Alors, moi, je pense que les origines peuvent être une force. Moi, je n'ai jamais eu ce dilemme-là, mais je pense que c'est la manière aussi dont nos parents nous ont éduqués, parce qu'ils nous ont toujours dit que c'était une chance d'être en France. Moi, je le dis souvent à mes enfants. Moi, je suis arrivée à l'âge de 8 ans et demi. Je n'avais jamais été scolarisée. Et comme mes parents étaient de conditions modestes, je pense que je n'aurais peut-être jamais été scolarisée si on était resté au Maroc, parce qu'on scolarisait plus facilement, de ma génération, plutôt les garçons que les filles. Donc à partir du moment où vous prenez conscience que c'est une chance d'être dans un pays où tout est de l'ordre du possible, je veux dire qu'il peut y avoir des freins, il suffit de les surmonter. Et donc moi, mes origines, au contraire, j'en fais plutôt... plutôt une force, parce que ça me donne aussi une capacité de comprendre peut-être ce qui m'entoure d'une manière beaucoup plus sensible, mais sans être dans la victimisation. Parce qu'encore une fois, je pense que vraiment, On a la chance de vivre dans un pays où tout est de l'ordre du possible à partir du moment où saisir sa chance. Et ma mère me disait une chose, ma maman, que Dieu ait son âme, elle disait toujours une chose, elle disait « Les seuls freins, c'est ceux que l'on se met ». Alors elle le disait en arabe, hein, mais je ne vais pas vous le dire en arabe, mais bon, voilà, les seuls freins c'est ceux qu'on se met soi-même, et je crois que c'est vraiment vrai. On peut vous mettre des freins à un moment, mais il faut vous dire, est-ce que moi, je veux qu'on me mette des freins? Est-ce que je ne suis pas aussi en capacité de casser ses freins et au contraire d'aller de l'avant? Et après, effectivement, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il faut aussi être dans une posture de se dire qu'il n'y a pas de fatalisme.
Pourquoi avez-vous quitté la politique? Car avant, vous étiez élu municipal.
Oui. Alors effectivement, ça a été une très 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 belle expérience. Mais vous savez, je vais vous dire les choses sans langue de bois. Je trouve que la politique, c'est très difficile, surtout quand vous êtes, comme moi, très engagé. Moi, je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un d'entier et je ne fais pas semblant. Et quand je m'aimais à fond. Et c'est vrai que c'était particulièrement intéressant. J'ai aimé travailler avec les habitants d'Audreux, j'ai aimé mettre en place des actions, être à l'écoute. Il y a eu vraiment des belles réussites. Mais franchement, je reviendrai peut-être à la politique, mais je n'ai pas eu envie de me réengager parce que je trouvais que humainement, c'était très, très... Ça peut être très difficile, la politique, voilà. On va se dire les choses comme ça.
Est-ce qu'une femme doit travailler plus qu'un homme pour réussir?
On peut se dire que pour une femme, c'est beaucoup plus difficile parfois parce que les femmes, c'est elles qui portent les enfants, on va se dire les choses. C'est elles qui portent les enfants, c'est elles qui les élèvent. Souvent, on dit « Ah, il aide sa femme ». Parce que c'est gentil, le monsieur aide sa femme, quoi. Ou alors on va se dire dans la famille, ah, le garçon, il aide. Mais je pense que c'est une prise de conscience. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons et j'ai une fille. Et je peux vous dire que ma fille, elle ne se laisse pas faire. Et que mes garçons, j'ai toujours eu le souci qu'ils soient aussi dans les tâches ménagères, qu'ils comprennent aussi, même par rapport à l'organisation de la famille, hein, que la maman, elle travaille, elle a des tâches... qui peuvent lui prendre beaucoup, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Et puis moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un époux qui m'aide beaucoup. Donc on va dire que, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'effectivement, il faut se dire les choses. C'est beaucoup plus difficile pour les filles. Parce que souvent, les mamans élèvent différemment le garçon et la fille. Et souvent, la maman, elle va plus demander, dans les aides ménagères, notamment à la maison, de faire plus aux filles qu'aux garçons. Et même si la fille, elle a des leçons, elle a aussi toute la charge liée à sa scolarité, elles vont quand même avoir tendance à plus demander d'efforts aux filles. Et ce n'est pas juste. Hein, messieurs? Et ce n'est pas juste. Voilà.
Avez-vous le même salaire que vos confrères masculins qui exercent le même métier?
Alors, je vais vous faire un aveu, je n'ai pas été... Regardez, je sais qu'on parle souvent de l'inégalité des salaires. Moi, je n'ai pas été... Je ne sais pas, dans le cadre de mes missions à moi, je crois que quand j'étais déléguée du préfet, je crois que c'était la même chose. Je ne pense pas qu'il y avait de différence. Je crois que dans la fonction publique, il n'y a pas quand même trop d'écart. Après, je pense que c'est beaucoup plus dans le privé qu'il peut y avoir des écarts.
Avez-vous déjà été la cible ou témoin de propos sexistes?
Sincèrement... Sincèrement, non, pas trop. Je peux avoir des problèmes liés aussi au fait qu'on peut me renvoyer à une origine ethnique ou bien religieuse. Vous voyez, ça peut être un peu ce problème-là. Mais bon, en général, moi, j'ai toujours une posture où je ne me laisse pas enfermer. Je trouve qu'il ne faut pas se laisser catégoriser ou enfermer par qui que ce soit, en fait. Parfois même pour ceux qui soi-disant veulent vous rendre service. Non, il faut avoir une posture où souvent, moi je dis, écoutez, je ne veux pas que vous me renvoyiez à une origine, qu'elle soit sociale, ethnique ou religieuse. Donc ça veut dire que c'est une posture qu'il faut avoir soi-même aussi.
Qu'est-ce qu'un élève peut faire pour se battre contre l'inégalité homme-femme?
Déjà entre vous, hein. Faut pas, les filles, il ne faut pas laisser les garçons... vous mettre dans une situation ou l'inverse. Merci. On va citer peut-être des exemples, mais il faut entre vous déjà qu'il y ait un respect mutuel et que la différence garçon et fille ne soit pas quelque chose qui crée une inégalité. Et puis le respect entre vous, beaucoup. Parce que souvent je dis, les femmes, c'est aussi vos mères et vos sœurs. Je dis ça souvent aux garçons, mais c'est pareil, vous avez raison, les garçons aussi ont le droit certainement à du respect.
Est-ce que votre famille était d'accord avec vos choix professionnels et vous a-t-elle encouragée?
Ben, je vais faire un aveu, vous savez, moi je suis d'une famille modeste et que ma maman, elle nous disait de bien travailler à l'école, mais ce qu'elle rêvait pour nous, c'était qu'on ait un travail de bureau. Parce que comme elle avait eu, bon, elle avait été ouvrière et que pour elle, ben, le fait d'être dans un bureau au chaud, c'était pour elle vraiment, c'est ça qui était bien. Donc elle n'avait pas, j'allais vous dire, une ambition plus que ça, parce que souvent les ambitions, ils viennent aussi du milieu où on est. C'est pour ça que Bourdieu en parlait beaucoup, hein, de la reproduction aussi sociale. Souvent, vous avez des enseignants en général, ils ont des leurs enfants font enseignants ou ingénieurs ou avocats. Enfin, c'est la reproduction un peu sociale. Moi, ma maman, c'était comme ça. Mais c'est vrai que j'étais en plus une fille, donc c'était pas évident. Parce qu'une fille, elle ne pouvait pas partir faire des études loin. Alors maintenant, ça a changé énormément. Mais pour moi, en ce temps-là, partir faire des études, notamment à Paris, bon, ce n'était pas trop concevable. Voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça a changé. Enfin, vous allez me rassurer, ça a changé.
Avez-vous une devise personnelle?
Moi, je dis toujours que tout est de l'ordre du possible. Voilà. Et que je ne supporte pas la victimisation, parce que je pense que non, on est en capacité. Tout le monde est en capacité. Quand on a un but, il faut essayer de l'atteindre. Alors des fois, on peut ne pas l'atteindre parce qu'on a des freins qui font qu'on ne peut pas. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que tout est de l'ordre du possible. Moi, j'aime bien cette devise. En France, surtout qu'on a un pays vraiment... vous savez, quand ma maman, on a eu la nationalité française, elle a pris comme ça le passeport qu'on a eu et elle a fait comme ça. Elle a dit, vous voyez, avec ça, vous irez partout dans le monde. Avec le passeport français, ce qui était vrai. Je parle souvent de ma maman parce que... En fait, je vais tout vous dire, c'est que mon papa, il travaillait beaucoup et c'était quelqu'un de réservé. Et c'est vrai que ma maman était beaucoup plus physiquement présente, beaucoup plus... C'était pas la même personnalité. Moi, je pense que je ressemble à ma maman parce que voilà, elle était beaucoup plus extravertie.
Quelle éducation avez-vous souhaité donner à vos enfants?
Bah écoutez, moi j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons, une fille, ils sont grands maintenant. Ma fille, la petite dernière, est encore étudiante. Non, mais c'est une éducation où n'oublie pas d'où ils viennent, mais qu'ils soient en phase avec le pays qui est leur pays aujourd'hui. Voilà, c'est qu'ils soient apaisés avec... parce qu'encore une fois, quand on éduque d'une manière apaisée dans la double culture, au contraire, c'est une richesse. Et je crois qu'avoir plutôt réussi, ils sont bien dans leur tête, ils sont bien... dans leurs origines, parce que leurs grands-parents et leurs parents sont d'origine marocaine et ils sont bien aussi fiers d'être français. Et je pense que ça les aide aussi beaucoup. Ils ont vraiment la fierté d'être français, de tout ce que notre pays peut nous apporter. Et on a un beau pays. Souvent, moi je dis, quand on visite les régions en France, on a un patrimoine extraordinaire. Mes enfants étaient à Michelet pour les garçons, c'est sur vers l'hôpital, Michelet. Ensuite Camus, ensuite Rotrou. Par contre, ma fille Ajar, elle a été à Saint-Martin et ensuite à Notre-Dame, en centre-ville. Et après, ils ont fait des études sur Paris, ils ont fait des études de commerce, les 3 sont entrepreneurs. Ils ont leur propre entreprise et j'en ai 2, je vais vous faire sourire, qui vivent au Maroc, qui sont repartis au Maroc, qui sont expatriés. Ouais, oui, voilà, ils sont expatriés, travaillent au Maroc et tout se passe bien. Et ma fille, bon, elle est à l'ICP, à l'Institut catholique de Paris, où elle fait des études, justement, un peu peut-être comme maman, sociologie, anthropologie, philosophie.
Quelles sont les causes et valeurs qui vous semblent importantes? Pourquoi?
Bon, écoutez, moi les valeurs que j'ai, c'est l'engagement, c'est la loyauté, c'est la fidélité, l'honnêteté, la sincérité. Voilà, c'est pas facile hein, parfois dans le monde, mais c'est une ligne de conduite qu'il faut avoir. Et puis encore une fois, dans mes missions, moi j'essaie de... Je ne veux pas mentir, en fait. C'est pour ça que je ne suis jamais dans un discours victimaire. Parce que je trouve que... C'est un pays en France, où on est soigné, les soins sont gratuits, l'école est gratuite. Enfin, il y a des tas de choses qui sont quand même à notre portée. Quand on est de famille modeste, il y a des bourses. Voilà, mais il faut se donner aussi les moyens.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour leur avenir?
Bah, comme je l'ai dit plusieurs reprises, voilà, il faut tout est possible, faut être persévérant, faut travailler. L'école, c'est important. C'est important parce que c'est un passeport pour l'avenir. Si vous avez des hésitations sur des études et tout, on peut à un moment ne pas savoir ce qu'on veut faire et changer, revenir vers autre chose. Moi, j'ai plusieurs fois aussi changé. À un moment, je me suis arrêtée parce que j'ai eu mes enfants et après, j'ai repris des études. C'est ça qui est formidable dans ce pays-là, c'est qu'on peut ne pas faire forcément d'une manière linéaire les choses, mais à un moment, s'arrêter, réfléchir, se dire « j'ai pas envie de ça, mais je peux peut-être faire ça ». Et puis, n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Il faut parler. Vous savez, encore une fois, je reprends aussi les exemples de maman. Maman qui disait, celui qui a une langue, il peut aller partout parce qu'il sait parler. Il faut parler. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Il ne faut pas hésiter à aller voir vos enseignants ou les CPE, etc. Il ne faut pas avoir honte, en fait. Encore une fois, parce que ça, il n'y a pas pire que se dire, non, je ne vais pas demander ou j'ai honte ou qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il faut enlever absolument cette espèce de casquette qui peut être une pression à se dire non, je ne vais pas demander, je ne vais pas oser. Il faut demander, renseignez-vous, tout est de l'ordre du possible. Moi, j'ai une jeune fille que j'ai suivie en Île-de-France qui avait fait un BTS et qui, aujourd'hui, elle conduit des avions. Une jeune fille d'origine marocaine, elle conduit des avions. Parce qu'à un moment, elle y a été, elle a demandé, elle s'est renseignée. Alors, effectivement, elle n'avait pas fait les études forcément pour. Mais voilà, elle est passée par plusieurs d'autres étapes et elle a réussi aujourd'hui. Mais c'est formidable.